Vous écoutez France Culture.
Une vie, une œuvre. Bonjour et bienvenue. Nous parlons aujourd'hui du metteur en scène et réalisateur Patrice Chéreau, 1944-2013. Il faut imaginer Chéreau, à 10 ans, qui mettait en scène des messes, moins attiré par Dieu que par le rituel de l'église, le recueillement, les décors, les jeux de lumière à travers les vitraux. Il faut l'imaginer à cet âge-là, car c'est là qu'il a vu les images que plus tard, il revisiterait dans ses pièces, lui qui aimait citer cette phrase de Roger Planchon, « Mettre en scène, c'est aussi retrouver les souvenirs d'enfance. » D'enfance, mais aussi d'une jeunesse troublée, vivante et en colère, à l'image du personnage de Jean-Hugues Anglade dans « L'homme blessé », ce jeune provincial amoureux d'un prostitué, garde du Nord, dans un film que Chéreau considérera comme son premier opus vraiment légitime. Ce film, il l'avait coécrit avec un autre de ces jeunes hommes attirés à la fois par la beauté et la violence, Hervé Guibert, qui devait mourir du sida quelques années plus tard, tout comme Coltès, que Chéreau avait su révéler également. À 10 ans donc, il mettait en scène des messes, puis il a touché à tout, cinéma, opéra, et l'un de ses regrets sera de ne pas avoir eu le temps de saisir mieux le travail du chorégraphe ni celui du romancier. On le voit, c'est d'un boulimique insatisfait, armé d'une terrible exigence, dont nous parlons aujourd'hui dans l'émission que vous proposent Virginie Bloch-Lenné et Christine Digère.
Je suis inquiet, je suis nerveux, je ne suis pas un angoissé. C'est ça ma grande force, je ne suis pas un angoissé.
Vous croyez ?
Ah, je suis tout à fait persuadé, je sais ce que c'est quelqu'un d'angoissé. Je sais que je ne le suis pas. Je ne connais pas la paralysie devant l'action. Mmh. Je suis quelqu'un qui dort et que plus il y a de problèmes, plus je dors. Vous me posez un problème insoluble, je commence à somnoler. Trois problèmes et le décor s'écroule, je dors 24 heures. Je ne suis pas un angoissé.
Non, sérieusement, vous pouvez vous arrêter au fait.
M'arrêter,
je peux faire la grasse patinée. Dire voilà, comment ? Ce matin je me lève, mais je me lève, je ne fais plus rien.
Tout dépend du nombre de personnes auxquelles vous posez un lapin en faisant ça.
Oui, on vous frappe là, on frappe à la porte. Oui, entrez.
Patrice Chéreau, une histoire de corps. Virginie Bloch-Lenné, Christine Digère. Lorsque Patrice Chéreau reçut carte blanche pour organiser au Louvre en 2010 une exposition avec les tableaux, les films, les musiques qu'il aimait, il l'intitula « Les visages et les corps ». Souffrant, désirant, les corps étaient au centre de tous ses films et de toutes ses mises en scène, à l'opéra et au théâtre. Hervé Guibert, qui fut son ami, écrivait que Patrice Chéreau avait vidé le jeu du chanteur de sa gestuelle figée, de cette emphase des jambes écartées, main sur le cœur, bras levés à 70 degrés. La dernière mise en scène de Patrice Chéreau fut Electra, l'opéra de Strauss, montée à Aix, en Provence, en juillet 2013. Il était très malade, mais il préparait la mise en scène de Comme il vous plaira, de Shakespeare. Jean-Pierre Vincent.
Il était très intéressant, et c'est pour ça que c'est un grand dommage qu'il ait disparu, qu'il entre dans « Comme il vous plaira », qui est une pièce du rassemblement bucolique, enfin de l'humanité, de quelque chose qui est un conte de l'apaisement. Il y avait déjà des traces de ça dans sa mise en scène d'Electra. Des moments d'humanité qu'on n'avait pas vus avant chez lui, quelque chose comme une réconciliation. La vie de Patrice avec le monde a été une crise. La crise de ce petit gnome qu'on a vu arriver au lycée, au groupe théâtral à 15 ans, puis de celui qui a tout fait à divers moments de sa vie pour mourir. À 30 ans, c'était la Traviata, hein. Il a fait une hépatite, il l'a soignée au champagne, il voulait mourir. Il y a toujours eu un rapport comme ça, très violent, avec la vie, le monde, le bonheur, si difficile à vivre pour lui. Et est-ce la maladie, est-ce, on ne sait pas quoi, ou l'âge tout simplement, ou la réflexion, l'intelligence. Dans les derniers temps, il y avait quelque chose de tout à fait différent. C'est très bouleversant d'ailleurs de quand on voit le film d'Electra, de le voir au salut, avec les chanteurs, si heureux, si sereinement souriant devant le public. Il savait très bien où il en était. Mais l'image de bonheur qu'il dégage là et qu'il a voulu dégager à ce moment-là, c'est très bouleversant.
Parce
pour quelqu'un qui l'a connu toute la vie.
Parce qu'il était rarement heureux au moment du salut.
C'était pas le problème d'être heureux. Je pense qu'il a eu des grands amours, qu'il ne peut pas ne pas avoir été heureux avec certains garçons, à certains moments de sa vie. Heureux, évidemment, avec un certain nombre de triomphes. À Bayreuth, il était heureux. Après, hein, après la première. Il était heureux parce qu'il avait triomphé de l'œuvre la plus énorme de l'histoire européenne et il était heureux. Mais c'était pas ça le problème. Il y avait une sorte d'inquiétude viscérale, hein, qui vient à la fois, on peut chercher à savoir d'où ça vient, et en même temps, c'est même pas la peine de savoir d'où ça vient des gènes, ça vient de la naissance, ça vient des premiers instants de la vie, ça vient du Big Bang, ça vient de...
L'enfance, elle n'était pas drôle. Le souvenir que j'ai de l'adolescence, c'est que le théâtre m'a sauvé. Sauvé, c'est un grand mot, mais enfin quand même. Que j'étais enfermé dans une sorte de malheur qui me convenait, en plus. Enfermé dans une sorte de solitude, mais comme tous les adolescents. Hein. C'est pas, j'ai vécu peut-être avec un petit peu plus d'acuité que mes camarades de classe, une sorte d'adolescence difficile, comme ça. Et que, par contre, j'ai su très vite. Et ça, je suis incapable de savoir pourquoi. Donc c'est pour ça que je ne m'y attarde pas. Je suis incapable de savoir pourquoi je fais ce métier.
Georges Banu, Patrice Chéreau, est né en 1944 à Lézigné, c'est dans le Maine-et-Loire, pas très loin d'Angers, en Anjou. Ses deux parents étaient peintres, mais il y avait plusieurs artistes dans la famille, c'est une famille d'artistes?
Oui, c'était plutôt une famille d'artistes et il revendique même cette éducation artiste. Il a très souvent fait référence à son père qui était peintre et à la relation qu'ils ont eue aussi bien sur le plan de l'expérience artistique que de l'éducation artistique. Chéreau raconte que son père l'a amené au Louvre et c'était très très émouvant dans l'exposition « Les visages et les corps » au Louvre. On voyait au début des œuvres un peu minuscules de son père, très impressionnantes, très très impressionnantes, et à côté les premières esquisses de Chéreau, car je crois que c'est très important de rappeler que Chéreau a commencé comme metteur en scène et scénographe jusqu'au moment où il y a eu la fameuse phrase. Le grand acteur qui travaille avec lui, Roland Bertin, lui a dit « Il vaudrait mieux que tu occupes plus d'acteurs que des maquettes ». Et à ce moment-là, ça a commencé la collaboration extraordinaire, unique et exemplaire avec Richard Peduzzi.
Qui a pris la relève. À quoi ressemblaient les esquisses de Patrice Chéreau, Georges Banu?
Moi, ce que j'ai vu, il y en a peut-être plusieurs, c'était toutes des maquettes de spectacles. J'ai vu les premiers cahiers de mise en scène de Chéreau où, comme Peter Brook, il préparait la mise en scène. À l'origine, c'était vraiment un dictateur jeune qui envisageait la mise en scène comme la mise en ordre du plateau, et c'est pour cela que sur ces cahiers de mise en scène, il dessinait les décors, les déplacements des acteurs, et ensuite il y avait des maquettes de décors. Moi, je n'ai pas vu autre chose.
Pourquoi un dictateur?
Parce que aujourd'hui, tout le monde réclame l'improvisation, la liberté des acteurs. À cette époque-là, Chéreau voulait que tout soit soumis à son projet.
Je veux égaler au monde la prison où je vis. Mais comme le monde est populeux, et que je suis ici la seule âme qui vive, j'y échoue. Pourtant, cette égalité, je la ferai jaillir de force. Ma cervelle sera la femelle de mon âme. Et mon âme sera le père. Et des deux, j'enfanterai toute une génération de pensées pullulantes. Et ces mêmes pensées peupleront ce petit monde. Et seront d'humeur changeante, comme les gens de ce monde. Car nulle pensée n'est en soi satisfaite. Ainsi, je joue à moi tout seul, même personnage, dont aucun n'est content.
Jean-Pierre Vincent, vous avez connu Patrice Chéreau adolescent au lycée Louis le Grand, donc à la fin des années 50. Vous vous souvenez de vos premières impressions en découvrant votre camarade ?
Vous savez, on arrivait, on était lycéens, et puis on savait qu'il y avait un groupe théâtral. Moi, je suis arrivé en 58, j'ai été pris, j'ai joué un petit rôle. Et Patrice est arrivé en 59. Et Patrice, à cette époque-là, n'avait pas du tout le physique qu'on lui a connu plus tard. Il le disait lui-même, hein, à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il était moche quand il était petit. Il avait une grosse tête, il était habillé en gris et marron, c'est horrible. Et on a vu arriver ce gars qui avait un regard de fou et qui, il a été pris au groupe. Et alors, il n'avait qu'une seule réplique à dire, du genre, il arrivait avec une lanterne et il disait, qu'est-ce ceci, mon seigneur. Et le jour où il est entré en scène, il a eu un trou. Parce qu'il était...
Timide, d'angoisse.
Non, il avait tellement envie. C'était une sorte de volonté farouche de faire du théâtre. Il y avait déjà beaucoup pensé, même à 15-16 ans. Et c'était terrible parce qu'il était une sorte d'objet de moquerie. Les autres membres du groupe, c'était soit des gens qui se destinaient à la profession de professeur et qui faisaient ça comme passe-temps, et d'autres qui voulaient faire du théâtre. Et à cette époque-là, en 58, à Paris, il y avait que le théâtre privé, le conservatoire, et avec un peu de peau, accrocher une place à la Comédie française. Et donc, c'était des gens très convenus, au fond, qui voyaient ce gamin sombre, farouche, vilain, tout ça. Et c'était vraiment un objet de moquerie.
Mais on pouvait devenir ami avec lui.
Ben, oui, je le suis devenu. Oui. Ça me semblait invraisemblable qu'on prenne quelqu'un comme tête de Turc. Et puis j'ai vu très vite que dans ces petits dossiers qu'il avait sous le bras, il avait des décors de théâtre,
qu'il
s'intéressait
par
à d'autres théâtres que celui qui était régnant en France à l'époque et tout ça. Et j'ai accroché mon wagon à cette locomotive.
Il était seul, il travaillait comme un dingue. Il était peintre.
Ah ouais ? Et il peignait quoi ?
Pas Picasso, hein, mais tu peux échanger une toile contre une télé. Une super belle télé. Il y avait toujours du monde, ça le fatiguait.
Il était pas tout seul alors s'il y avait du monde.
Je les ai tous virés, tous. La vieille, le neveu, la grosse, je les ai tous virés, tous.
Mes parents étaient des gens assez pauvres, artistes, et comme on dit, bohèmes, comme on disait à l'époque, mais qui ont toujours tiré le diable par la queue. Et ça, par contre, c'était une chose bien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais dans une famille qui n'avait pas de moyens du tout. Et donc j'ai dû travailler très 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 tôt et continuer à faire mes études et gagner mes salaires très vite et aider mes parents aussi. Donc non, c'est bien ça.
Vous dites bohème et aussitôt j'entends Ama Bohème, Arthur Rimbaud. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, quand vous aviez 17
j'étais
ans.
J'étais très sérieux quand j'avais 17 ans. J'étais sinistrement sérieux, je pense. J'étais même plutôt bon élève, pas excellent élève, mais plutôt bon élève et studieux. J'étais studieux.
Et surtout, vous aviez envie de faire des spectacles.
Oui, j'avais envie de faire des spectacles. Mais en même temps, je suis quelqu'un qui reste facilement seul et qui n'a pas de problème à rester seul. Donc je suis toujours, même maintenant, quelqu'un qui est capable de rester seul et de lire un livre et de ne pas bouger d'un endroit. Et je pense que quand j'avais de 12-13 ans, c'était pareil.
Le trône de Danemark. Que vas-tu, là ? Le trône de Danemark. Que veux-tu, Laert ?
Je regarde. Ouais, c'est ça. Tu vas sauver, c'est ça. Vas-y.
Mon redouté seigneur, la permission et la faveur de repartir en France.
J'ai envie de repartir, carrément. Mon redouté seigneur, j'ai envie de me tirer. Vas-y.
Mon redouté seigneur, la permission et la faveur de repartir en France.
Voilà.
Avec empressement, je suis venu au Danemark. Beaucoup de hommage.
Avec beaucoup d'empressement, vraiment.
Avec empressement, je suis venu au Danemark. Vous rendre hommage au jour du couronnement.
Georges Bannu, vous pouviez en parler avec Patrice Chéreau, où il en parlait du fait que son corps était toujours, hein, vous avez dit, en passion, ou qu'il avait besoin d'utiliser son corps.
Bah, on parlait pas, mais on le voyait d'ailleurs, Didier Sandre, qui a connu Chéreau jeune. On disait, il faut pas oublier que Chéreau, c'était un petit garçon, et il faut bien dire que Didier Sandre a 1m82, donc Chéreau a 62, donc 70 peut-être. C'est un petit garçon qui se rongeait les ongles, qui avait une mèche de cheveux qu'il agitait tout le temps, qui reniflait. Et Sandre disait, et moi je me demandais, qu'est-ce que je peux faire pour l'apaiser? Et c'est une très belle phrase de la part d'un acteur. Comment aider celui qui est en face de moi, qui vit cette tension? Et progressivement, son corps s'est transformé sans se calmer, sans s'apprivoiser. Et il suffisait de le voir dans la répétition, comment il montait sur le plateau, comment il restait toujours près des acteurs, toujours près des acteurs.
Mais est-ce que moi, je touche plus la main?
Ah ben je ne sais pas, j'étais de l'autre côté,
ah,
je n'ai pas vu.
Parce que j'effleure de plus en plus, je touche de moins en moins.
Ben tu peux toucher un peu.
Ouais, d'accord.
Par contre, ce qui est bien, pour les gens de l'autre côté, comme j'étais l'autre jour,
oui,
c'est parce que ta main est restée comme ça qu'on a compris ce que tu avais fait.
Ah.
Tu vois, puisque je ne le vois pas le geste, il est pour ceux d'ici.
Oui, parce que je la retire tout de suite.
Oui, tu l'as laissée comme ça? Non, on la retire pas.
Ah, je la retire.
Non. Et tu disais mais non, c'est ça?
Oui.
Oui, non, on ne la retire pas.
D'accord.
C'est, la retire pas, c'est-à-dire que tu es là, tu dis, ben oui, j'ai fait ce geste.
Oui.
Tiens,
d'accord.
Ça m'est venu.
Il y a des metteurs en scène qui parlent fort, comme Streller. Lui, il parlait à l'oreille des acteurs en créant une intimité. Et cette énergie qui était en lui, il la transmettait au point de fabriquer dangereusement certaines copies. Je me souviens dans Phèdre, j'ai vu ce grand acteur qui est Ruff de la Comédie française, je l'ai vu de dos et j'ai vu les épaules de Chéreau. Et je me suis dit, il est entré dans son corps.
C'est le mimétisme des répétitions.
Mimétisme, ouais. Et c'était une sorte de capacité d'irriguer, d'occuper le corps de l'autre. Et en même temps, il faut bien dire que ce corps-là lui a permis de faire une vraie grande création de la société des champs de coton. Dans la deuxième version, il se construit un corps. Le corps du personnage avec une casquette.
Le dealer, le rôle du dealer.
Le rôle du dealer, une casquette avec un ventre postiche. Et phrase intéressante, il disait, avant d'entrer en scène, je me regardais chaque fois dans la glace et je me disais, regarde dans quel état tu es arrivé.
Si vous marchez dehors à cette heure et en ce lieu, c'est que vous désirez quelque chose que vous n'avez pas. Et cette chose, moi je peux vous la fournir. Car si je suis à cette place depuis plus longtemps que vous, et pour plus longtemps, et que même cette heure, qui est celle des rapports sauvages entre les hommes et les animaux, ne m'en chasse pas, c'est que j'ai ce qu'il faut pour satisfaire le désir qui passe devant moi.
Tout m'a été une école. Le groupe théâtral du Lessul-Grand a été une école formidable, parce que je suis resté 5 ans, 6 ans, et j'ai regardé les lumières se faire. Je pense que j'ai commencé même la mise en scène à cause d'un détail qui m'a servi, qui était que je ne faisais pas de sport du tout quand j'étais petit, et je faisais simplement un sport très prétentieux qui s'appelle l'escrime. Et donc il est arrivé un jour, est arrivée une pièce, Roméo et Juliette, où il y avait besoin de quelqu'un pour régler les duels. Et donc évidemment j'ai levé la main et j'ai réglé les duels. Et là je pense que là c'est la première expérience que j'ai eue de manier des corps dans l'espace, si je puis dire, ou d'organiser quelque chose. Mais il n'y a pas eu d'école.
Vous pensez qu'on apprend mieux sur le tas?
Non, mais sauf qu'il n'y a pas d'école de mise en scène.
C'est drôle parce que j'ai retrouvé dans ma cave l'autre jour deux cartons où il y avait du matériel de Louis le Grand, des dessins de lui et des dessins de moi, parce que je me suis mis évidemment à dessiner comme lui. Alors on dessinait au crayon bic, noir, On effleurait à peine le papier et on faisait des ombres, des sfumato avec les crayons-billes. Et il dessinait des personnages, alors c'était dans la tradition du Berliner Ensemble et de Brecht, on faisait quasiment tout le spectacle en dessin, des sortes de storyboard, mais pour le théâtre, avant de monter le spectacle. Et ça nous prenait des heures, hein. On pouvait rester 7-8 heures pour faire un panneau de décor sur du papier blanc. Et c'était d'un raffinement incroyable, c'était d'une précision maniaque. Et ça ressemblait beaucoup au dessin de certains décorateurs du Berliner Ensemble, des compagnons de travail de Brecht.
À l'adolescence, Patrice Chéreau va beaucoup au cinéma, beaucoup au théâtre, donc il va à la Cinémathèque qui était rue d'Ulm à l'époque. Donc on est à la fin des années 50 et il admire le Berliner Ensemble.
Il l'a même vu à Paris, mais il a fait aussi le voyage à Berlin.
Il a fait, oui, avec ses petits sous, voilà. Tout jeune. Oui.
Il a fait le voyage à Berlin. Il aime le théâtre de Brecht, mais en même temps, Chéreau, il était très intéressé par Villars. Et ce que j'ai beaucoup aimé, dit-il, c'était la clarté de Villars. Je pense qu'il y avait un mélange de clarté villarienne et de matérialité de Brecht.
Au début, encore il y a très longtemps, j'ai beaucoup aimé Beckett, mais enfin, c'était pas très raisonné de ma part. En fin de compte, je suis très gêné, à la fois par Beckett, par Ionesco. Enfin, personnellement, ce ne sont pas des auteurs que j'aimerais monter, et je crois surtout que ce ne sont pas des auteurs que j'aimerais présenter à un public.
Pourquoi ?
Pour Ionesco, je crois que c'est très très mal fait. Il y a un manque total à la fois d'humour. Enfin, il ne sait pas du tout ce qu'il a à dire à un public, je crois. Il dit des choses qui ne sont pas intéressantes à présenter. Enfin, pour Beckett, c'est différent.
Vous connaissez bien le théâtre de Ionesco ?
Oui, je l'ai lu et je l'ai vu. Je reconnais peut-être certaines qualités scéniques, disons, des pièces comme La Cantatrice Chauve, aux pièces du début. Maintenant, j'estime qu'il se perd dans des choses, je ne dirais pas philosophiques, comme on a tendance à le dire, mais enfin, avec une absence de philosophie ou une vulgarité dans la philosophie.
Vous avez vu La Soif et la Faim ?
Non, je ne l'ai pas vu. Mais j'ai vu Le Roi se meurt et ça m'a choqué.
Vous connaissez Tueur sans gage ?
Oui, je connais.
Pour l'avoir
aussi.
Vu ?
Pour l'avoir vu.
Et Rhinocéros ?
Et Rhinocéros pour l'avoir vu. Oui.
Et ce théâtre ne vous séduit pas du tout ?
Du tout.
Et celui de Beckett non plus ?
Celui de Beckett me gêne, mais je reconnais que c'est un très très grand auteur, enfin, qui a une authenticité, enfin, beaucoup plus grande que Ionesco. Mais je reste très en dehors. Parce que ce dont il parle, justement, me laisse assez froid. Et vis-à-vis d'un public, je crois que ce ne sont pas des choses intéressante à dire.
Et Jeunet ?
Jeunet, c'est un peu le même problème, je crois.
On a l'impression que vous jugez ces hommes qui ont beaucoup apporté au théâtre et qui ont beaucoup servi le théâtre, on a l'impression que vous les jugez un peu du haut de votre œuvre future.
Non, du tout. D'abord, il y a des choses enfin, que j'admire énormément, enfin, que ce soit Brecht, que ce soit éventuellement, dans certains cas, Adamoff, et que ce soit Planchon. Et ce sont des choses pour lesquelles je suis sans réserve, disons.
On nous a contactés. Le Festival de Nancy était à ses débuts, Jacques Lang. Et ça a été l'héritier de village de Marivaux, que j'ai relu d'ailleurs il y a 3 semaines. Et je ne me souvenais plus de la violence extraordinaire de ce texte.
Qu'est-ce que c'était le texte
pour lui ? Pièce de lutte des classes. En plus, ça permettait d'enfoncer le clou et de dire au théâtre français, à l'université française, que Marivaux, ça n'était pas un bibelot sur la dentelle de la cheminée de grand-mère, que c'était quelque chose d'âpre, de violent, de lucide.
Il était très politisé à ce moment-là, Patrice Chéreau.
Oui, on était très politisé, oui. Si vous voulez, on était issus quand même de toutes les luttes sur le Vietnam et la guerre d'Algérie. Et on était très politisés au sens de ces sortes de mouvances un peu diverses hein, qu'était l'extrême gauche à ce moment-là, qui était trotskiste ou Mao, ou pro-Mao, ou Situ, ou tout ça. Bon. Et nous, on était théâtre, critique, violemment critique. Et l'héritier de village au Festival de Nancy a été un scandale épouvantable. Moi, je me souviens, j'ai porté les premières lunettes de soleil dans un Marivaux. J'avais un costume blanc, 18e, avec des bottes en agneau blanc. J'avais les cheveux rasés et des lunettes noires. Et maquillé en blanc, avec des cernes sous les yeux. Il y avait un truc qu'on n'avait pas vu du tout en France. Enfin, des morceaux à la fois de cinéma expressionniste, de burlesque américain, d'héritage du cinéma soviétique, enfin, des choses que les gens ne pouvaient pas accepter, étant donné que Marivaux était un des piliers de la tranquillité culturelle de la France. Alors, ce qui s'est passé, c'est que entre L'Héritier de Village et mai 68, nous avons été invités par Bernard Sobel à Gennevilliers, puis par Claude Sévigné à Sartrouville. Nous nous sommes installés à Sartrouville. On faisait les spectacles, l'animation culturelle, on a fait énormément de choses. Est arrivé mai 68, et là, il y a eu cette grande réunion de Villeurbanne, de tous les directeurs de centres, et Patrice est parti là-bas. Patrice n'était pas à Paris en mai 68. Il était à Villeurbanne, à causer avec ces messieurs.
Dans les années 60, il y a eu aussi le choc du Piccolo Teatro de Milan.
Ah oui.
Là, vous avez été fasciné par Strehler.
Oui, parce que j'ai pensé que c'était en plus une étape supérieure par rapport au Berliner, puisqu'il y avait Brecht et en même temps, il y avait cette idée magnifique, formidable à l'époque, totalement italienne, que la beauté pouvait être subversive. Alors que d'une certaine façon, en Allemagne, dans les années 70, c'était plutôt la laideur qui devait être subversive. Et que là, j'ai été réconcilié totalement, d'une certaine façon, avec le monde de la peinture, avec le monde de la lumière, et pas bouleversé par les acteurs, parce que les acteurs italiens sont ce qu'ils sont, mais par l'art de Strehler, qui était un art suprême du théâtre. Et ça a été effectivement la révélation. Et quand, des années plus tard, on m'a proposé d'aller travailler en Italie, où j'ai fait mon premier opéra, j'ai dit oui, évidemment, tout de suite. Et quand Grassi, qui était à l'époque où Strehler n'était plus là au Piccolo, m'a proposé de venir au Piccolo, je me suis évidemment précipité. Mmh.
Votre première opéra, c'était l'italienne à Alger.
Oui, de Rossini.
Il disait dans Les visages et les corps, il y dépose les acteurs avec leurs tourments, les acteurs minuscules dans des décors gigantesques dans lesquels il dépose des toutes petites choses qui peuvent se tordre de douleur. Ça représente qu'il aimait beaucoup la peinture aussi et que dans la peinture, il y a comme ça, je pense qu'en se baladant au Louvre quand il était petit, c'est ce qu'il voyait, des choses très très belles, très gigantesques. Et puis tous les tableaux de Caravage où on voit des jeunes garçons se faire torturer ou se faire trancher la tête, mais toujours dans des décors et dans des architectures qui sont magnifiques. Il était fou de l'Italie, il était fou de certains endroits d'Espagne.
Il y avait Séville,
voilà.
Où il avait une maison.
Il avait une maison qui était un de ses lieux favoris. Il aimait la Toscane, il adorait Rome, où on voit bien ce genre de musée vivant comme ça à l'intérieur de la ville, avec des patines de murs, d'architecture qui n'ont pas été bouffées par le temps moderne. Et c'est quelque chose comme ça qui, dans Phèdre, c'était les parois de Petra en Jordanie. Parfois, c'était des choses comme ça très précises qui existaient. C'était tellement à l'identique que ça devenait... C'était comme si des fois, il transportait des bouts de ville à l'intérieur d'un théâtre. La dispute, c'est pareil, c'est une sorte de forêt reconstituée à l'intérieur d'un théâtre. Donc, il y a une telle présence de réalité que c'est une sorte de choc comme ça. Devant tant de beauté, on est saisi.
Philippe Calvario, comment avez-vous rencontré Patrice Chéreau ?
C'était en 95, donc ça fait presque 20 ans. J'étais tout jeune comédien, j'étais encore au cours Florent. Comme je ne savais pas comment m'adresser à lui, qui venait de faire La Reine Margot, donc c'était un peu des années où on parlait beaucoup de lui, je lui ai envoyé une photo de moi déchirée, avec juste un nom et mon téléphone, avec du genre « appelez-moi ». Et à ma grande surprise, voilà, quelques jours après, il m'a appelé pour me dire « allons boire un café, rencontrons-nous ». Et j'ai compris des années après que, en fait, le geste que j'avais fait un peu inconscient était un peu quelque chose qui rejoignait finalement son métier et toute son œuvre, à savoir des personnages dont il devait reconstituer l'image pour fabriquer comme ça un visage, ce qu'il raconte très bien dans Les visages et les corps, partir des pensées secrètes de l'acteur et puis fabriquer lui-même l'image. C'était un peu, ouais, c'était un geste inconscient qui rejoignait finalement un acte théâtral.
Retirez-vous du champ et non, sul posto, giri sul posto, lentamente, guarda in su, guarda in su. Ti fermi, guardi i vecchi, giri, girati, no, verso di me, la camera è qua. Ecco, giri, li guardi.
L'image che l'on a de Chéreau, c'est l'image d'un grand leader. De troupes, de communautés, mais en même temps, lui était profondément en solitaire et que sa force venait du fait qu'il n'acceptait pas la solitude, il voulait la surmonter en faisant du théâtre, de l'opéra, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en travaillant avec lui pour le théâtre à Salonique, pour le livre, j'ai découvert qu'il était un très très grand lecteur. Donc pour être un grand lecteur, il faut être aussi un grand solitaire. Mais je crois qu'il a combattu perpétuellement contre les dangers et aussi la tentation de la solitude. Et ensuite, moi, je l'ai rencontré plusieurs fois quand il habitait 4 rues de Braque, pas loin de chez moi.
Ouais.
Et quand on allait chez lui, on était très impressionnés par l'escalier, qui était un superbe escalier du 18e, comme s'il était dessiné par le grand scénographe. Cela m'a rappelé des escaliers dessinés par Yanis Kokos pour un spectacle Les Fausses Confidences de Jacques Lassalle. C'était, disons, un bâtiment d'art. Et par contre, je n'ai pas vu son dernier domicile parce qu'il l'avait quitté, était affaibli. Et c'est vrai qu'il s'est posé le problème de l'ascension sans ascenseur jusqu'au deuxième étage. Et Gérard de Sartre m'a dit que c'était le dernier appartement, c'est un appartement de plein pied, comme une sorte de pré-retraite, pour ne pas dire le mot, un peu funèbre. From the rock of the ark to the fading devil star, the light
races, the light tracks. En 2003, donc quand il montait Phèdre, des journalistes de Libération lui ont demandé « les acteurs pliaient en deux ?» et il a répondu « c'est physique, la passion fait mal au ventre, on se tord de douleur à désirer ». Quel commentaire vous inspire cette réponse, Philippe Calvario ?
Je pense qu'effectivement, il s'est sans doute tordu de douleur une partie de sa vie dans le désir. Et on va dire que le désir et la mort sont les deux figure principale qu'il a essayé de chercher toute sa vie. Et oui, le désir fait mal. On a envie de suivre au plus près les acteurs dans leur tourmente. C'est ce qu'il aimait faire. Il aimait rendre cette tourmente la plus belle possible pour qu'au sein de choses les plus parfois sombres, parfois douloureuses, la lumière naisse à travers les images incroyables qu'il fabriquait, les décors incroyables qu'il fabriquait avec Richard Peduzzi. C'était un peu cette contradiction entre le beau et l'extrême violence, l'extrême douleur. C'est ça qui était la plus grande partie de sa recherche en tant que metteur en scène. La beauté dans l'observation de la douleur.
Oui, quand je dis un désir que vous êtes seul à connaître et que vous jugez, peut-être je ne connais pas mon désir non plus.
Ah ben, si tu penses ça, tu peux plus jouer la réplique.
Mais c'est ça qui est...
Ah ben non, je veux dire, alors, tu peux pas... Oui, tu peux toujours essayer, mais alors, à ce moment-là, c'est... Tu ne peux pas dire ça si tu penses que je ne le connais
sûr,
pas.
Bien sûr, je sais bien. Mais qu'est-ce qui lui a fait dire au dealer qu'il connaisse mon désir ? À quel moment ? Je lui ai jamais montré mon désir.
Jean-Pierre Vincent, qu'ont en commun les textes que Patrice Chéreau choisissait de mettre en scène ? Pourquoi il aimait Coltest ? Pourquoi il aimait Marivaux ? Pourquoi il aimait Shakespeare ? Pourquoi il n'a jamais monté Claudel ? Si peu Molière ? Pourquoi il n'a pas choisi de monter Peter Handke ?
Ben, on était dans ce qu'on appelait l'héritage critique. Violemment critique, mais critique. Et on était issus de ce groupe Louis le Grand où nous avions appris à raconter des histoires. Au fond, Patrice, c'était un raconteur d'histoires. Et il a cherché les auteurs qui lui permettaient de raconter des histoires dont les personnages ou les situations avaient quelque chose à voir avec sa biographie à lui. Alors, quelles que soient les questions dont traite une pièce, comment elle met en question l'univers, le monde politique, les luttes de classe, etc., il est essentiel qu'il y ait un élément biographique dans le geste de celui qui va commandé le spectacle. Et ce geste, moi je croyais pas par exemple qu'il le trouverait dans la tétralogie de Wagner. Ben il l'a trouvé.
Chez Coltès par exemple.
Ben chez Coltès, il y avait une écriture hypersensible. Et cette sorte de troublante écriture de Coltès qui est à double étage. C'est-à-dire, vous avez un dialogue dans Coltès, et puis vous avez le secret du dialogue qui est écrit en même temps. Beaucoup de phrases veulent dire d'autres choses. Je pense aussi que c'était une, au début surtout, une relation intime et personnelle avec Bernard-Marie, qui n'était pas simple hein, d'ailleurs, hein, qui a, y a eu des éclats et des étincelles. Hein. Bernard-Marie n'était pas forcément d'accord avec tout. Et il a décidé à un moment que Bernard-Marie Coltès serait l'auteur de Nanterre. Et il a été jusqu'au bout de cette trajectoire, jusqu'au bout.
Je suis intéressé par les rapports amoureux, je suis intéressé aussi par les relations où il n'y a pas d'amour. Je dirais à un moment donné, vous savez, on fait partie d'une espèce, l'être humain, qui a tendance, comme toutes les espèces animales, à se mettre à deux. Pour une heure, pour deux heures, pour trois heures, pour quelques mois, pour quelques semaines, ou pour toute la vie. Et qu'à un moment donné, se pose des problèmes de comment rester en couple. Je veux dire, tout le monde fait ça, c'est un problème central. Je ne dis pas que ce soit le plus important, mais c'est le plus difficile, visiblement.
Et c'est celui qui conditionne tout dans la vie ?
Non, pas tout, pas tout. Mais il prend une énergie énorme, en général, d'après ce que je vois autour de moi. Et d'après ce que je vois dans ma propre vie, ça prend beaucoup de place. Et c'est très beau. Parfois, ça peut être très, très douloureux.
Ce soir, je veux que tu m'aimes comme tu ne m'as jamais aimé. Je veux découvrir ton corps. Je veux découvrir ton odeur. Je veux une nuit sans repos. De ma mort. Je veux ma nuit, on passe la veut. Je la veux avec toi.
Il y avait quelque chose de très sensuel dans sa direction de comédien. Par exemple, quand je l'ai vu diriger La Nof de Peer Gynt, c'était il y a 32 ans, c'est un peu 1980. La même chose pour moi que quand je l'ai vu répéter Lucio Silla à Milan.
Dominique Blanc.
C'est-à-dire qu'il est toujours sur le plateau, il vous manipule parfois comme si on était les uns les autres une espèce de pâte à pain. Il nous modèle, il nous pétrit, il nous façonne. Et puis, petit à petit, il s'éloignera. Mais il y aura au départ quand même toujours cette proximité physique. Et je pense que c'est quelqu'un qui, outre son immense charisme, avait quelque chose aussi dans sa direction qui était extrêmement érotique, on va dire. Il y avait un très fort potentiel érotique qui troublait hommes et femmes confondus. Et ça, sur de longues années, je pense que je ne suis pas la seule à le dire. Moi, en tout cas, ça m'inspirait énormément. Il avait besoin que l'on s'engage tout entier. Il aimait que le corps s'engage en même temps que l'intellect pour vivre sa passion.
Comment vous les qualifieriez, les corps, dans les pièces ou les films de Patrice Chéreau ?
Totalement engagé, totalement frémissant, totalement palpitant. Je pense qu'il a aussi toujours aimé filmer le nu. Et si le nu est arrivé au théâtre, c'est aussi avec une infinie délicatesse. Lorsque dans Phèdre, il m'a demandé de dévoiler ma poitrine, ça ne s'est pas fait au cours d'une répétition où tout d'un coup, il a fallu déboutonner. Non, ça s'est fait petit à petit avec une approche presque animale, je dirais, incroyablement subtile, sensible, intelligente, où tout d'un coup, à un filage, il m'a dit « Tiens, si jamais on pouvait imaginer que… » Et après, c'est à moi d'oser ou pas oser. De toute façon, lui-même, physiquement, c'était quelqu'un de très, très combustible, de très, très engagé. Ses mains étaient tout entières comme des branches d'arbres. Et son corps s'engageait tout entier dans le travail de répétition parce qu'il vivait par écho, ou parfois par avance, ce qu'il voulait que le personnage incarne.
Tes sujets sont des morts couverts de terre,
Marco,
des vivants
arrête.
Couverts de honte. Et vous, vous qui êtes toujours si inquiète pour mon fils, vous pouvez être tranquille. Ils sont maudits pour l'éternité. Et moi aussi, je suis maudite.
Pourquoi ?
Parce que vous avez invité vos victimes à mes noces.
Vous vous êtes servi de moi. Vous vous êtes servi de nous comme
un peuple de carnage.
Toujours la
tête, vous jamais d'avaler les autres. Ta famille n'a besoin de rien. Ni de personne pour organiser le carnage.
Daniel Thompson, Patrice Chéreau vous dit « Je vois très bien ce que tu veux dire. » Est-ce qu'il aimait la même chose que vous dans ce roman ? Et qu'est-ce qu'il voulait en prendre ?
ce personnage de la reine Margot, qui de toute façon est quand même un personnage légendaire, qui était censé avoir beaucoup d'amants, de garder leur cœur ou leur tête dans des boîtes, qui est une légende qui avait traversé le temps, puisque c'est repris dans Mademoiselle de la Mole, dans Stendhal, qui a une vénération pour ce personnage, qui est une descendante du fameux La Mole du livre. Donc il y a quelque chose de très romantique dans la légende de la reine Margot, et très sexuelle. Parce que bon, à l'époque, une femme qui est censée avoir beaucoup d'amants, puis le fait qu'elle ait sauvé ce jeune homme et qu'il est devenu son amant, ce qui est quelque chose qui est historique, mais enfin qui est un détail de l'histoire et dont évidemment Dumas avait fait le point de départ de son roman. Tout ça faisait qu'il y avait dans toute cette histoire ce vivier en effet de sexe et de sang, qui était quelque chose qui parlait beaucoup à Patrice.
Le théâtre parle obligatoirement de désir, puisque ça parle du désir que j'ai pour le corps des comédiens. C'est-à-dire par la fascination et par la séduction qu'exerce la présence de toute personne en face.
Il me demandait d'interroger à travers le texte et à travers le comédien un mouvement.
Thierry Tionion.
Un mouvement qui pourrait être un mouvement dansé, mais qui ne devait surtout pas être de la danse. Et c'est ça qui m'intéressait dans la collaboration, dans le travail avec Patrice Chéreau, c'était que jamais il m'a demandé de questionner la danse dans son travail. Et c'était tout à coup d'interroger la place du corps de façon plus générale, plus empirique, avec, que ce soit avec des enfants, avec des prisonniers, avec des chanteurs d'opéra, que mon travail est celui-là. Je n'ai pas envie d'être simplement un chorégraphe spécialisé dans la danse, mais au contraire de chercher à travers tous les corps, des corps des comédiens, comment un mouvement apparemment chaotique peut devenir un mouvement poétique.
Quel commentaire vous feriez sur la façon dont bougent les corps dans La Reine Margot, dans Intimité et dans Ceux qui m'aiment prendront le train, où il y a beaucoup de mouvements?
J'ai très beau souvenir de Ceux qui m'aiment, toutes les premières 20 minutes où ils sont tous dans le train et comment la caméra les suit, comment ces corps bougent dans ce train, dans ces petits espaces, comment ces corps se frôlent, se cognent, s'arrêtent. Intimité, c'est mon film préféré, je crois. D'abord parce que c'est dans une autre langue, d'abord c'est parce qu'il y a beaucoup de silence, parce qu'il y a beaucoup de peau, beaucoup de gestes, et que ces gestes et ces corps sont là dans le silence. C'est des corps qui sont comme Patrice aimait, c'est des corps qui vont vite, c'est des corps qui vont lentement, c'est des corps dans des oppositions, dans des contrastes, c'est des corps qui sont portés par le désir. Le désir de dire, le désir de rester, le désir d'aimer. Mais chacun est dans une vérité, même quand ça rate, quand ça cogne. Chacun est dans son propre désir et pas dans le désir de l'autre. Donc ce qui se passe dans les Reines Margot, il y a encore de la... Je n'ai pas envie de dire de l'hystérie, mais il y a encore de la...
De l'empressement.
De la fureur.
C'est lui ? C'est l'amiral ? Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est un miracle. La balle lui a seulement déchiré le bras.
Vous n'êtes que des gens. Vous voulez tous nous tuer?
Écartez-vous.
C'est passé. Je vous dirai le ciel.
Pourquoi Jean-Pierre Vincent, le caractère de Patrice Chéreau n'était pas de tout repos?
Je pense qu'il a toujours mis une ambition supplémentaire à tout ce que les autres personnes pouvaient mettre comme ambition dans un projet. Il voulait toujours casser les murs, dépasser la limite, aller très loin. Par exemple, en 1966, quand il a monté Les Soldats de Lens pour le concours des jeunes compagnies qui existait à ce moment-là, on était une vingtaine sur le plateau, payés au lance-pierre, mais on était quand même une vingtaine sur le plateau. Il avait rajouté un orchestre de 13 musiciens dans la fosse, qui jouait la troisième de Beethoven en réduction pour 13 musiciens. Évidemment qu'avec les moyens d'une jeune compagnie, vous dépassez toutes les bornes. C'est-à-dire une exigence du toujours plus qui ne l'a jamais lâché, d'ailleurs. Enfin, quand on regarde la reine Margot, on se demande comment il a réussi à faire ça. Alors, ce qui était intéressant pour moi, dans les dernières choses que j'ai vues de lui, en particulier l'Electra, c'est que cette exigence du toujours plus s'était tournée en intensité plutôt qu'en extension. Il y avait quelque chose dans la profondeur du projet qui qui devenait tout à fait extraordinaire, alors que des fois, il était plutôt dans le bouillonnement. Mais c'était aussi une question simplement de caractère quotidien, enfin d'emportement. On l'appelait Caprice Chéreau, ou Patrice Chéri, mais on l'appelait aussi beaucoup Caprice Chéreau.
Dire des choses ou avoir envie de dire des choses qu'à partir d'une mise en forme de l'espace, en maîtrisant toutes les données du spectacle. Dire des choses ou avoir envie de dire des choses qu'à partir d'une...
En 2008, Patrice Chéreau reçoit le prix européen du théâtre pour toute son œuvre à Thessalonique, en Grèce.
Pour Thessalonique, je l'ai vu beaucoup à ce moment-là, pour choisir le texte. Moi, je faisais des propositions, et il les refusait, parfois rapidement, parfois plus en détail. Et finalement, c'est lui qui a trouvé Coma de Guillotin, qu'il a lu à Thessalonique avec un succès moyen. Mais il faut bien dire que le choix de Chéreau était un choix périlleux pour aller à Thessalonique. Donc il a choisi la difficulté, mais ensuite il me faisait le procès pourquoi les gens partaient de la salle. Et je lui ai dit, mais écoute, je ne suis pas Ceausescu pour les tenir attachés à leur fauteuil.
Donc, il n'était pas content ou il
n'était pas content. Ah, oui. Mais si on prend des risques, il faut les assumer jusqu'au bout. Là. Et je me souviens que, à la suite de ça, moi j'ai écrit un article sur la lecture. Comme c'était dans le livre, j'y arriverai un jour. C'est moi qui ai trouvé le titre. Et il l'a lu et il m'a dit, c'est très bien ton texte, mais à trop de points de suspension. Et à ce moment-là, moi, je lui ai dit, écoute, fais ce que tu veux. Et c'est vraiment aussi la deuxième fois que j'ai eu le sentiment de l'impact du metteur en scène. Il a lu le texte, il me l'a renvoyé, il avait supprimé des points de suspension, il avait mis des points et des points virgules, et tout d'un coup, le texte avait une direction, une énergie qui manquait dans la première version, la mienne un peu hésitante, pleine d'atermoiements. Et je me suis dit, au fond, c'est peut-être ça que j'ai compris. Un grand artiste fonctionne de la même manière dans tous les domaines. Dans la correction d'un texte qu'il propose un ami, dans la mise en scène d'un film, il y a une unité du comportement et sa force venait de là aussi.
Alors, une autre chose de Patrice, qui est très importante, c'est la fidélité. Fidélité à des thèmes, à des auteurs, à des personnes, à des acteurs. Par exemple, à partir de 68, quand on s'est quitté, on se voyait une fois tous les 4 ans ou tous les 5 ans. Mais il y avait une fidélité. On se retrouvait exactement comme si on s'était vu la veille. Ça, c'est un caractère très important de Patrice, qui a été jusqu'au bout.
La fidélité envers les thèmes. Alors, les thèmes, ce seraient des obsessions.
Il y a une fréquentation de la mort, de la violence, de la plupart des rapports humains, même quand ils sont érotiques, ou etc., qui est quand même très important. Vous disiez, il n'a pas monté Molière. Mais Patrice n'était pas du tout un metteur en scène de comédie. C'est quelqu'un qui riait beaucoup dans la vie.
Beaucoup. Qui riait aux plaisanteries des autres ou qui pouvait...
Les deux. Oui, non, oui. Non, surtout, c'était un satiriste. Il riait beaucoup des autres. Il trouvait les autres vraiment, franchement, ridicules et nazes, vraiment. Et alors, ça le faisait rire beaucoup. Mais il n'était pas un metteur en scène du monde de la comédie. Le monde de la comédie, c'est un monde du rachat, c'est un monde du pardon. Et lui passait vers l'humanité à travers d'autres chemins, beaucoup plus violents, mais même avec son corps. Et Patrice était un squelette, hein. Squelette, oui, très fort. C'est pour ça qu'il y avait un appétit aussi très... Il fallait nourrir ce squelette.
Une voracité.
Mais je me souviens, quand on se voyait une fois tous les 3 ans, on se retrouvait, on se voyait du bout du couloir, on s'embrassait, et à chaque fois, c'était quand même les auto-tamponneuses quand on embrassait Patrice. Vous aviez un bleu à la pommette. Il y avait un truc rugueux, quoi, rude. And don't forget who's taking you home. I know that the music's bad, like sparkling wine, though it's all you've got.
dans un livre qui s'appelle « Les visages et les corps », qui correspond à l'exposition qu'il a organisée au Louvre. Patrice Chéreau a écrit « Quelle est cette combinaison étrange de ma vie et de mon métier ? Cette façon de vivre, cette voracité, posséder, vouloir tout, connaître le mouvement, raconter des histoires, transmettre. » Quel commentaire ça vous inspire, François Génigier ?
Ben, voracité, déjà, c'est quelqu'un de toujours affamé, au sens propre, qui mangeait dans votre assiette deux fois ce que vous pouviez manger. Éric Gauthier, une fois, c'était à Limoges, c'était pour ceux qui aiment prendre le train, et on avait regardé des roches, et on sort, et Patrice dit on va boire un café, et Éric dit oui, j'adore me brûler. Parce qu'il buvait son café tellement vite, à peine posé sur le comptoir, il le buvait brûlant, et pour repartir ailleurs et faire autre chose. Il y avait une voracité de travail et de connaissances. Et Patrice, c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé. Avec moi, si on parlait de choses, c'était plus des exemples de choses personnelles. Par exemple, pour intimité, le type prend en filature cette femme. Ah, c'est des choses. Bah oui, il ne faut pas suivre les gens, vaut mieux pas suivre les gens et ne pas, faut pas essayer de savoir. Et ce qui était tout à fait un truc personnel, mais qui, moi, m'indiquait d'autres choses pour le montage. Donc les références étaient plutôt là-dessus. Et après, il parlait des langues et il avait toujours quatre journaux, un journal italien, un journal allemand, un journal anglais sous le bras, plus Le Monde et Libération, plus un livre. Et voilà, donc oui, c'est une voracité, oui.
J'ai le sentiment qu'il était toujours dans l'intranquillité. Il arrivait toujours avec, sur le cœur qui était en quelque sorte masqué, par le texte ou par le scénario, il avait toujours dans le bras gauche un texte qui était comme son arme et son armure, qui en même temps lui protégeait le cœur. C'est incroyable à dire, mais c'est comme ça. Et puis, il balançait le texte sur la table de régie. Il arrivait en général en avance, et s'il n'était pas en avance, c'était le dernier à arriver, mais avec toujours cette énergie considérable, cette énergie combustible qui nous tétanisait et qui nous paralysait tous au départ, et puis qui par la suite nous enflammait, nous illuminait, nous inspirait.
D'où vient cette unanimité produite par sa disparition? Si demain Mnouchkine meurt, c'est le peuple de gauche qui pleure, le peuple de droite qui s'en réjouit. Chez lui, il y a eu cette unanimité, et je trouve que cette unanimité s'explique par le culte qu'il a eu pour l'art, un art profondément humain, par le fait qu'il n'a pas eu de stratégie de carrière, qu'il n'a pas été courtisan, impliqué dans des plans, et qu'il ne s'est jamais protégé. Je crois que la leçon profonde de Chéreau, c'est ne jamais se protéger. S'il s'engage dans un projet, il va jusqu'au bout. On peut se protéger en refusant des projets qu'il n'aime pas. Ça, c'est une autre chose. Il racontait, je ne sais pas, dans le livre, je pense qu'il dit qu'il a refusé, je ne sais pas combien de Carmen. Donc, se refuser parce qu'on n'aime pas le projet, mais une fois le projet ou l'amitié engagée, la dévotion était intégrale, sans faille. Et il y a une très belle histoire, un jeune éclairagiste qu'il contacte, qui raconte qu'il a reçu le message de Chéreau quand il était à l'enterrement de sa grand-mère, et il est venu voir Chéreau, et à la fin, il dit à Chéreau, qui lui a parlé deux heures quand même du projet, il dit « J'espère que je vais être à la hauteur ». Et Chéreau, sur le pas de la porte, lui dit « Mais tu sais, nous cherchons tous à être à la hauteur ». Donc, il était habité par cette exigence sans faille.
Et mon père, il m'appelle. Il me demande de mettre les photos avec un mot genre à vendre, belle maison, ou je ne me souviens plus, environ de Limoges, ou dans la campagne, je ne sais plus quoi. Et il me dit, on ne sait jamais, ça peut intéresser quelqu'un. Une baraque énorme en plus, absolument hors de prix.
Je dors, moi.
Dès que tu lui parles d'argent, il a de ses bouffées d'angoisse. Tu lui demandes comment ça va, il a crac, il te parle des impôts locaux, et enfin voilà, tu vois quoi.
Je vois.
La vérité, c'est qu'il l'a tué. Je crois. J'en suis sûr.
Qui ça?
Ma mère.
Oui, mais qui l'a appelé ?
Mon père, Jean-Lucien, pas Jean-Baptiste. Jean-Baptiste aurait été plutôt le contraire. Enfin, il y en avait deux modèles, ma mère a épousé le mauvais.
Philippe Calvario, est-ce que vous pouvez décrire l'appartement de Patrice Chéreau ? J'ai lu qu'il y avait plusieurs tables et chaque table était consacrée à un travail en cours.
J'avoue que même en étant dedans, je ne regardais pas trop, j'étais un peu discret à ce niveau-là. En tout cas, c'était un classement très précis pour lui. Oui, il aimait beaucoup travailler à la table, mais il pouvait rester des heures. Il pouvait arriver à la table à 9h du matin, manger un petit truc à midi, puis repartir à 8h du soir sans aucun problème, en mettant parfois Electra à fond et puis en regardant la partition. Des fois, il disait aussi qu'il aimait bien papillonner. Il lit un livre, un autre, il regarde des photos, puis des autres, et puis il revient. Et puis il mélangeait aussi les projets, puis les projets se construisaient ensemble. Il écrivait un scénario, puis il pouvait travailler sur Electra en même temps. Et puis parfois, il montait un film en même temps. Mais la zone entre les projets était très poreuse, comme ça. Ça s'interpénétrait.
Il y avait des tableaux de son père dans son appartement ?
Oui, un petit peu. Il avait un Warhol qu'on lui avait offert, qui prenait beaucoup de place, la tête de Mick Jagger, qui était très beau.
Il aimait les Rolling Stones ? Ou c'était Warhol qu'il aimait ?
C'était un cadeau, et je pense qu'il adorait Mick Jagger, qu'il le trouvait très sexy, et que, comme il y avait peu de choses au mur, ça prenait une place assez importante. Il y avait des photos de Guibert, notamment une photo de lui, des photos que lui avait données Guibert. Il y avait des photos plus personnelles, voilà. Il y avait des visages parfois que je ne connaissais pas. Et il y a eu longtemps la photo d'Avdon qui était magnifique, de lui et Pascal, avec ses deux regards qui étaient, qui étaient sur une des tables. J'ai l'impression que c'était des regards qui me regardaient parce qu'ils étaient très puissants, très magnétiques. C'était très inspirant d'avoir ces visages en face comme ça.
Il était affectueux, Patrice Chéreau.
Je le trouvais affectueux, sentimental. Voilà, même si parfois il pouvait être très angoissé tant que les choses n'étaient pas trouvées, donc parfois un peu nerveux. Mais voilà, ça se passait toujours sur le travail. Il n'y avait pas de manipulation de choses. Donc pour moi, c'est un cœur ouvert, hein, vraiment.
C'était Une vie, une œuvre, Patrice Chéreau, par Virginie Bloch-Lenné, réalisation Christine Diger. Mixage Jaizan Taous, attaché de production Laurence Genepin. Avec Jean-Pierre Vincent, metteur en scène, Georges Banu, historien du théâtre, coordinateur du livre d'entretien autour et avec Patrice Chéreau, J'y arriverai un jour, publié chez Actes Sud. Philippe Calvario, comédien et metteur en scène, Daniel Thompson, scénariste de La Reine Margot et de Ceux qui m'aiment prendront le train, François Gédigier, monteur des films de Patrice Chéreau, Dominique Blanc, comédienne, et Thierry Tionyang, chorégraphe. Avec la voix de Patrice Chéreau, issue des archives de l'INA. Prise de son Manon Houssin, Marc Garven, Laurent César et Catherine Déréthé.
C'était Une vie, une œuvre, Patrice Chéreau, 1944-2013. Un grand merci à Virginie Bloch-Lenné et Christine Diger. Comme tous les épisodes précédents, celui-ci est podcastable sur notre site ou via les plateformes de téléchargement habituelles. Notre carte mentale est également disponible en ligne. La semaine prochaine, dans Une vie, une œuvre, une émission pour entendre autrement un homme que l'on croit bien connaître, en partie à tort, Serge Gainsbourg.